Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 20, Daf Kaf. Bonne écoute et bon limoud.
Higufat Echutz, cette cruche elle-même devrait pouvoir empêcher le passage de la Touma. Deha Kli Cheres Eno Metame Bigabo, parce qu'un ustensile en argile n'est pas susceptible de devenir impur par l'extérieur. Par conséquent, sa présence devrait être suffisante pour empêcher le passage de l'impureté. L'Agma répond, nous lisons ici selon le Bar, l'Otricha de Puma le Gav. Ici, il s'agit d'un cas où l'ouverture de cette cruche se trouve vers l'intérieur, c'est-à-dire en direction de la pièce où se trouve le cadavre. Par conséquent, cette cruche elle-même est devenue impure, et c'est pour cela que, sans la présence des figues qui sont abîmées, comme nous l'avons expliqué, cette cruche n'aurait pas pu empêcher le passage de l'impureté. Vibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Le olam de Puma le Bar, toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit ici d'un cas où l'ouverture de cette cruche se trouve vers l'extérieur. Hachabema eskinan, cependant, ici de quel cas il s'agit? Bechavit shel matechet, il s'agit d'une cruche en métal. Par conséquent, même si le fond de cette cruche se trouve en direction de la pièce où se trouve le cadavre, elle deviendrait quand même impure. Par conséquent, sans la présence des figues se trouvant à l'intérieur, l'impureté se propagera d'une pièce à l'autre. Mais lorsque cette cruche est pleine de figues qui peuvent tenir toutes seules, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, l'impureté ne passera pas, même pas par le moyen de cette cruche, voire le Tosfot et le Ramban. Métivé, on a opposé à nouveau une braïta à l'enseignement de Rav Tuvi Bar Kisna. Alors la braïta dit, « Asavin shetalshan veinichan bechalon » une personne qui aurait arraché de l'herbe et l'aurait posé dans une fenêtre, « O shealu meleen bechalonot » ou bien de l'herbe qui a poussé toute seule dans des fenêtres, et cette herbe diminue sa taille, ou bien « umatloniot she'en bahem shalosh al shalosh » ou bien des morceaux de chiffon dont la taille est de moins de 3 doigts sur 3 doigts, c'est-à-dire de moins de 7 cm sur 7 cm environ. Ces morceaux de tissu étant tellement petits, ils ne sont pas aptes à devenir impurs. Ou bien « veha ever veha basar » un membre ou bien de la chair qui a été arraché partiellement à un animal, hamedul dalim, et qui sont donc suspendus, bibehema ou bechaya, à un animal domestique ou à une bête sauvage, et qui a été posé dans une fenêtre. Ce membre ou cette chair qui n'ont pas été entièrement arrachés ne sont pas encore impurs. Ils ne sont même pas susceptibles de devenir impurs sans contact avec l'un des sept liquides que nous avons mentionnés plus haut. Ve'ov sheshachan bechalon, ou bien un oiseau qui s'est installé dans une fenêtre, ve'oved kochavim sheshav bechalon, ou bien un goy qui s'est installé dans une fenêtre, parce que tout être vivant n'est pas susceptible de devenir impur, à part un Israël. Donc l'oiseau ou le goy ne sont pas susceptibles de devenir impur. Ou ben shmona, et un bébé qui est né prématurément au huitième mois, celui-ci n'est pas considéré viable, hamunach bechalon, qui a été posé dans une fenêtre. Alors, puisque celui-ci n'est pas viable, il n'est pas susceptible de devenir impur, et puisqu'il est encore vivant, il n'est pas impur. Vehamelach et du sel, ou klicheres et un ustensile en argile, vesefer Torah et un sefer Torah, qui ont été posés dans une fenêtre, kulam mematin bechalon, ils ont tous la possibilité de diminuer la taille d'une fenêtre. Aval hasheleg, mais de la neige, vehabarad, ou de la glace, vehaglid, ou du givre, vehakfor, ou des grêlons, vehamaim, ou même de l'eau, Kulam en mematin bechalon, leur présence ne sera pas suffisante pour diminuer la taille d'une fenêtre. Et cela, même s'ils se trouvent dans un ustensile, et aussi qu'ils ne sont pas susceptibles de devenir impurs, parce que comme le précise le Tosfot, il s'agit d'un cas où cette personne n'avait pas destiné cette neige ou cette glace à de la boisson. Et pour l'eau, comme l'explique le Chassidé David, il s'agit d'un cas où cette eau est imbuvable, quand même leur présence ne diminuera pas la taille de la fenêtre. Et cela selon le principe que nous avons vu dans la Mishnah ramenée précédemment dans la Gemara, qui est qu'un objet ne peut diminuer la taille d'une fenêtre que s'il peut tenir tout seul dans cette fenêtre. Donc cette neige ou cette glace qui fondra rapidement, et l'eau aussi qui ne peut pas tenir tout seul dans cette fenêtre, mais uniquement par le moyen d'un ustensile, qui lui ne peut pas empêcher le passage de l'impureté, par conséquent donc, cette eau ou cette neige ou cette glace n'empêcheront pas le passage de l'impureté. En tout cas, nous avons vu au début de la Mishnah différents objets qui ont la possibilité de diminuer la taille d'une fenêtre. Alors la question se pose, Veha Asabin Chazuli Vemto, pourtant cette herbe qui a été mise dans une fenêtre peut être utilisable pour nourrir les animaux. Finalement donc, il ne s'agit pas d'une fermeture définitive. Selon Rav Tovi Bar Kisna donc, cette herbe ne devrait pas pouvoir diminuer la taille de cette fenêtre. L'Agma répond, Be'afrasta. Il s'agit d'une herbe appelée Afrasta qui est un poison pour les animaux. Finalement donc, cette personne n'utilisera pas cette herbe pour nourrir ses animaux. Et puisqu'il s'agit d'herbe fraîche, celle-ci ne pourra pas non plus être utilisée pour un foyer. Nous pouvons donc considérer que cette herbe a été abandonnée. Il s'agit ici d'une fermeture définitive. Alors l'Agma reprend un autre passage de la Breta qui dit « Onshalou melehen » ou bien de l'herbe qui a poussé tout seul dans cette fenêtre. Alors l'Agma demande, c'est d'ailleurs ici qu'apparaîtra le rapport entre notre sujet et le sujet traité dans ce chapitre. « Kivan dekashou le kotel » puisque cette herbe est nocive pour les murs, comme nous avons vu dans la première Mishnah, comme nous l'avons expliqué, que les herbes qui poussent à proximité d'un mur vont ameublir les fondations de ce mur, et celui-ci risque donc de s'écrouler. Alors, puisque cette herbe est nocive pour ce mur, Shakil Lehu, le propriétaire va forcément les enlever de là-bas, nous ne pouvons donc pas considérer cette fermeture comme une fermeture définitive. L'Agma répond à Marraba Bekotel Khurba. Il s'agit ici d'un mur d'une ruine, le propriétaire ne se soucie pas donc de sa fragilité. Nous pouvons donc estimer qu'il laissera ses herbes. Cette fermeture pourrait être considérée comme une fermeture définitive. Rav Papa Amar, Rav Papa propose une autre réponse. « Afilu bekotel yishuv » même s'il s'agit d'un mur d'une maison habitée, nous pouvons quand même comprendre cette Mishnah. Nous pourrons dire en effet qu'il s'agit d'un kab ba'in. Nous lisons ici selon le bar, « Chutz mishlosha lechalon ». Il s'agit d'herbes qui ont commencé à pousser à une distance de 3 tfachim de la fenêtre. Et lorsqu'ils ont poussé, ils sont arrivés à boucher partiellement cette fenêtre. Mais puisqu'ils viennent de l'extérieur, ils ne causeront pas de dégâts à ce mur. Et c'est pour cela donc que le propriétaire les laissera là-bas. Nous pourrons donc considérer qu'il s'agit ici d'une fermeture définitive. Alors l'Agma demande concernant le troisième cas mentionné par la Mishnah, matloniot, des morceaux de chiffon ou des petits morceaux de tissu. Alors la question se pose, chazoulé, l'écria de l'boucha. Même s'il s'agit de petits morceaux de tissu d'une taille de moins de 3 doigts sur 3 doigts, ils peuvent être quand même utilisés pour rapiécer un habit déchiré. L'Agma répond, Besmirta. Il s'agit ici d'un tissu très épais qui ne peut pas être utilisé pour rapiécer un habit. Alors l'Agma demande quand même, Chazoule Umna. Ils peuvent être utilisés par un docteur qui pratique une saignée pour essuyer le sang. L'Agma répond, Beriska. Il s'agit ici d'un tissu qui est très épais, mais en plus qui est rugueux. Il ne peut donc pas être utilisé pour nettoyer la plaie après une saignée. Iberiska, s'il s'agit d'un tissu rugueux, forcément donc il s'agit d'un tissu grossier. Celui-ci n'est susceptible de devenir impur que lorsqu'il a les mesures de 4 fachim sur 4 fachim, comme le tissu à base de poils de chèvre. Si c'est ainsi, chez Enbaen Shalosh al Shalosh, pourquoi est-ce que la Mishnah précise qu'il s'agit d'un morceau de tissu qui n'a pas la taille de 3 doigts sur 3 doigts? Chez Enbaen Arba al Arba Mibaele. La Mishnah aurait dû dire qu'il s'agit d'un tissu qui n'a pas la taille de 4 tfachim sur 4 tfachim. Parce qu'avec un morceau de tissu grossier d'une taille de moins de 4 tfachim sur 4 tfachim, il n'y a rien à faire. Et c'est pour cela qu'il n'est pas susceptible de devenir impur. L'Agma répond, Ke'en Riska. Il ne s'agit pas véritablement d'un tissu tellement grossier qui ne sert à rien s'il n'a pas la taille de 4 tfachim sur 4 tfachim. Mais il est suffisamment grossier pour ne pas pouvoir être utilisé pour nettoyer une plaie après une saignée et ni pour raccommoder un habit. Mais s'il avait la taille de 3 doigts sur 3 doigts, il aurait pu être utilisé, par exemple, comme chiffon. En tout cas, puisqu'il s'agit dans notre Mishnah de petits morceaux de tissu inutilisables parce qu'il s'agit d'un tissu rugueux, nous pouvons estimer que le propriétaire les laissera là-bas. Nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une fermeture définitive qui empêchera le passage de l'impureté. La Gemara reprend le passage de la Breta qui dit « Va'ever va'basar hamedul dalim bebehema ubechaya » un membre ou de la chair qui a été arrachée partiellement à un animal domestique ou sauvage et qui sont restés suspendus et qui ont été posés dans une fenêtre. Leur présence est suffisante pour empêcher le passage de l'impureté. La Gemara demande « Arka be'azla, cet animal se sauvera. nous ne pouvons pas considérer qu'il s'agit d'une fermeture définitive. L'agma répond, Bikshura. Il s'agit d'un cas où cet animal est attaché de manière à ce que cet animal restera ici et son membre restera dans sa fenêtre. Et cela pour éviter de la souffrance à cet animal. Alors l'agma demande, Shachitla, il risque quand même de vouloir l'égorger pour la manger. Finalement donc cet animal ne restera pas là-bas. L'agma répond, Betmea, il s'agit ici d'un animal impur, donc comme un âne ou un cheval. Celui-ci ne pourra donc pas être égorgé pour être consommé. Alors l'agma demande, Masbin la nonochi, même s'il ne peut pas lui-même la manger, mais il peut la vendre à un goy pour qu'il la mange. Il y a toujours le risque que cet animal ne reste pas sur place. L'agma répond, Bekrusha, il s'agit en plus d'un cas où cet animal était maigre. Il n'y a donc pas de viande à vendre à un goy. Alors l'agma demande, Pasik, Shadeler, Leklavim, il risque de couper ses membres ou cette chair suspendue pour le jeter au chien. Si c'est ainsi, nous ne pouvons pas considérer cela comme une fermeture définitive. L'agma répond, Kivan deika tsar balechaim. Puisque le fait de couper ce membre ou cette chair va faire souffrir l'animal, et c'est interdit de le faire, lo avid, il ne le fera pas. Par conséquent, nous pouvons considérer cette fermeture comme définitive. Voilà. Cependant, comme le Tosfot le précise, il n'y a pas à craindre que le propriétaire abatte cet animal pour le donner à manger à un chien, parce qu'il s'agit d'un animal qui peut encore servir d'animal de compagnie, ou bien on peut encore jouer avec, même s'il est attaché à proximité de la fenêtre. La Gemara reprend le passage de la Braïta qui dit « Ve'ov she'shachan bechalon » et un oiseau qui s'est installé dans une fenêtre. Alors la Gemara demande « Parar ve'azil » celui-ci risque de s'envoler et de partir, nous ne pourrons pas considérer cette fermeture comme fermeture définitive. La Gemara répond « Bekashur » il s'agit d'un oiseau attaché. La Gemara demande « Shachitle » le propriétaire peut quand même vouloir l'égorger pour le manger. La Gemara répond, Betamé, il s'agit d'un oiseau impur qui est interdit à la consommation. La Gemara demande, Masbin le Lenochi, il peut quand même vouloir le vendre à un goy. Finalement donc, nous ne pourrons pas considérer cela comme une fermeture définitive. La Gemara répond, Bekalanita, il s'agit d'un oiseau appelé Kalanita, qui est un oiseau très maigre où il n'y a rien à manger. La Gemara demande, Yahible Leinuka, il risque quand même de vouloir donner cet oiseau à un enfant pour qu'il joue avec. La Gemara répond, Bemesaret, il s'agit d'un oiseau qui griffe. Finalement donc, il est impossible de le donner à un enfant pour qu'il joue avec. La Gemara demande, Kalanita, Lomesarta, pourtant nous savons que cet oiseau appelé Kalanita ne griffe pas. La Gemara répond, Ke'en Kalanita, il s'agit d'un oiseau dont les caractéristiques ressemblent à cet oiseau appelé Kalanita, c'est-à-dire c'est un oiseau maigre, dont, où il n'y a rien à manger, mais qui griffe. C'est pour cela donc que nous pouvons considérer qu'une fois qu'il a été attaché, il restera sur place. Nous pouvons considérer cela comme une fermeture définitive pour empêcher le passage de l'impureté. La Gemara reprend le passage de la Brita qui dit Ve'ovet kochavim she'ashav bechalon et un goy qui s'est installé dans une fenêtre. La Gemara demande Kai ve'azil, celui-ci risque de se lever et de partir. Finalement, pourquoi nous considérons cela comme une fermeture définitive? La Gemara répond Bekafut, il s'agit d'un goy qui a été attaché. La Gemara demande Ate chavre shadele, son ami risque de venir et le délivrer. Finalement, il peut encore partir. La Gemara répond, Bemetzora, il s'agit d'un lépreux, personne ne s'approcha de lui pour le délivrer. Alors la Gemara demande, Ate Metzora, Chavre, Charele, mais un autre lépreux risque de venir le détacher. La Gemara répond, Ela, Bechavushe Malchut. C'est pour cela que nous devons dire qu'il s'agit d'ici d'un goy qui a été emprisonné par le roi, et c'est ici qu'il l'a attaché. Personne, donc, risque de venir le détacher. C'est pour cela que nous pouvons considérer sa présence comme suffisante pour empêcher le passage de l'impureté. La Gemara reprend un autre passage de la Braïta qui dit « Uben shmona hamunach bechalon » et un bébé né prématuré au huitième mois qui a été posé dans une fenêtre. Alors la Gemara demande « Atia ime dar yale » sa mère risque de venir et de l'emporter. Finalement, pourquoi nous considérons la présence de ce bébé comme étant suffisante pour empêcher le passage de l'impureté? La Gemara répond, Beshabbat, il s'agit d'un jour de Shabbat, d'Etania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Ben Shmona, un bébé prématuré qui est né au huitième mois, Hareu Keven, est considéré comme une pierre, parce qu'il s'agit d'un enfant qui n'est pas viable. Ve'asur le taltelo Beshabbat, il est interdit de le transporter le Shabbat. Aval imo shocha alav umenikato, mais sa mère peut se pencher sur lui pour l'allaiter, mipnea sakana, à cause du danger. En effet, si la mère ne l'allait pas, elle risque l'engorgement. En tout cas, nous voyons dans cette braïta qu'il est interdit de déplacer pendant le Shabbat un bébé prématuré qui n'est pas viable. Par conséquent, comme l'explique le Rashba, puisque ce bébé ne sera pas déplacé toute la journée, sa présence est suffisante pour empêcher le passage de l'impureté. La Gemara reprend un autre cas mentionné par la Braïta, Melach, le sel. La question se pose, Chazalé, il peut l'utiliser pour sa consommation. Finalement, ce sel ne restera pas là-bas. Pourquoi peut-il empêcher le passage de l'impureté? La Gemara répond, Bemurirta, il s'agit d'un sel qui est très amer, qui ne peut pas être utilisé pour la consommation. La Gemara demande, Chazalé Orot, ce sel peut être utilisé pour tanner des peaux. La Gemara répond, Deidba Kotse, il s'agit d'un gros sel dont les grains ont des aspérités. Ce sel peut donc blesser les mains de la personne qui l'utilise. Il n'est donc pas utilisable pour tanner des peaux. La Gemara demande, cependant, Kivan de Kachia le Kotel, Chakla, puisque comme nous l'avons vu dans la Mishnah, le sel est nocif pour le mur. On l'enlèvera de là-bas. Nous ne pouvons pas considérer donc qu'il s'agit d'une fermeture définitive. Et quand même, nous voyons que sa présence est suffisante pour empêcher le passage de l'impureté, contrairement à l'enseignement de Rav Tuvi Bar Kisna. La Gemara répond, Deatva Achaspa. Il s'agit d'un cas où ce sel était posé sur un morceau d'argile. Par conséquent, donc, celui-ci n'est plus nocif pour le mur. La Gemara demande si c'est ainsi, Chaspa Gufa Techutz. Si c'est ainsi, le morceau d'argile lui-même devrait être suffisant pour empêcher le passage de l'impureté. Pourquoi doit-on ajouter le sel?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Tournons la page à Dafka Famoud Bet. La Gemara répond, de l'Edba Shiura, il s'agit d'un cas où ce morceau d'argile n'a pas la dimension requise. C'est-à-dire, premièrement, même après ce morceau d'argile, les dimensions de la fenêtre étaient trop grandes. Donc dépasser la taille d'un tefar sur un tefar, qui est la dimension qui permet le passage de l'impureté, il fallait donc ajouter autre chose. Mais aussi, il s'agit d'un morceau d'argile d'une taille insignifiante. Il n'y a donc pas à craindre qu'on l'enlève de là-bas. Et par conséquent, on serait obligé d'enlever aussi le sel. Quel est nan, comme nous voyons dans une Mishnah, dans Masechet Shabbat Daf Pebet, concernant l'interdiction de porter le Shabbat d'un domaine privé à un domaine public ou vice-versa. La Mishnah explique que pour transgresser cette interdiction, il faut avoir porté un objet d'une certaine importance. Or la Mishnah dit, Cheres, la taille d'un morceau d'argile pour qu'il soit considéré important pour transgresser l'interdiction de porter le Shabbat, Kedeliten ben patsim le chavero. Il faut qu'il s'agisse d'un morceau d'argile suffisamment grand pour qu'il puisse être utilisé pour coincer l'encadrement de fenêtres. S'il est plus petit que cela, la personne qui l'a transporté n'a pas transgressé l'interdiction de porter le Shabbat. Et dans notre cas, s'il s'agit d'un morceau d'argile plus petit, il n'y a pas à craindre qu'on enlève de là-bas pour l'utiliser. Nous pourrons donc considérer qu'il s'agit d'une fermeture définitive avec le sel qui se trouve dessus. La Gemara reprend un autre cas enseigné par la Braïta, Klicheres, un ustensile d'argile. Alors la question se pose, Chazelé, il peut l'utiliser. Finalement, il ne restera pas dans cette fenêtre. Pourquoi peut-il empêcher le passage de l'impureté? La Gemara répond, Demitnaf, il s'agit d'un ustensile qui est sale, qu'on ne peut pas laver. Il est donc inutilisable, il restera là-bas. Alors la Gemara demande, Chazelé Umna, il peut servir au docteur pour recueillir le sang lorsqu'il pratique une saignée. En effet, il peut utiliser même un ustensile qui est très sale. La Gemara répond, de Menakev, il s'agit d'un cas où cet ustensile est troué, de manière à ce qu'il est impossible de l'utiliser pour recueillir le sang d'une saignée. C'est pour cela donc, puisqu'il s'agit d'un ustensile qui est inutilisable, nous pouvons estimer qu'il restera là-bas, il s'agit donc d'une fermeture définitive. La Gemara reprend le dernier cas enseigné par la Braïta, Sefer Torah. Alors la question se pose, Chazel et Mikra, on peut l'utiliser pour lire la Torah. Pourquoi donc peut-il empêcher le passage de l'impureté? La Gemara répond, Bebaloui, il s'agit d'un Sefer Torah usé et abîmé qu'on ne peut pas utiliser pour la lecture de la Torah. C'est pour cela donc que nous pouvons estimer qu'il restera là-bas. Alors la Gemara demande, Vehaba et Gniza, pourtant il faut l'enterrer. Finalement donc ce Sefer Torah ne restera pas là-bas. La Gemara répond, Sham Tehe Gnizata. Il s'agit d'un cas où le propriétaire de ce Sefer Torah avait décidé que ce serait là l'endroit où il serait enfoui. Finalement donc, ce Sefer Torah restera là-bas toujours. Nous considérons donc qu'il s'agit d'une fermeture définitive. C'est pour cela donc que sa présence empêchera le passage de l'impureté, même selon l'opinion de Rav Tuvi Bar Kisna. Nous lisons ici selon le Masoret HaShas, Amar Rav, Bakol Osin Mechitza, avec n'importe quel matériau, il est possible d'ériger un mur de séparation pour permettre de porter le Shabbat ou pour empêcher le passage de l'impureté. Chutz mimelach urvav, à part le sel et la graisse animale. Et cela parce que le sel n'est pas stable. Il s'éparpille de tous les côtés. Il est impossible de garantir donc la taille de ce mur. Et la graisse animale fond au soleil. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, à filou melach, il est même possible d'utiliser du sel pour ériger un mur de séparation. Amar Rav Papa dit là-dessus, veut l'appliquer, il n'y a pas de discussion entre Rav et Shmuel. Ha bemelach sedomit. Shmuel parlait du sel provenant de la ville de Sodome, c'est-à-dire de la région de la mer morte, qui est un sel grossier et dur qui ne s'éparpille pas. C'est pour cela qu'il pourra être utilisé pour ériger un mur de séparation. Ha bemelach istroknit, alors que Rav parle du sel appelé istroknit, qui est un sel fin et qui s'éparpille. Il est impossible d'utiliser pour ériger un mur de séparation. Vehashta de Amar Rabba. Maintenant que Rabba a dit, Ose Adam Shne Tziburei Melach, une personne a le droit de faire deux tas de sel des deux côtés de l'entrée d'une ruelle, Umaniach Aleim Kora, et il pose sur ces deux tas une grosse poutre pour faire une sorte de portail qui permettra de porter dans cette ruelle, Shea Melach Mamedet et Akora, parce que le sel soutient la poutre, Veakora Mamedet et Amelach, et le poids de la poutre stabilise le sel. Celui-ci ne s'éparpillera pas. Finalement donc, ce tas de sel restera à sa hauteur initiale, qui est d'un minimum de 10 tfachim. En tout cas, puisque nous voyons que le poids de la poutre stabilise le sel, nous pourrons dire, « Afilu melach istroknit », même si soit Rav et soit Shmuel parlent du sel qui s'appelle le sel istroknit, donc du sel fin, quand même nous pourrons dire, « Velopligé, il n'y a pas de discussion entre Rav et Shmuel. » Ha diika kora. Shmuel parle d'un cas d'un mur de séparation qui a été érigé avec du sel sur lequel on a posé une poutre dont le poids stabilise le sel. Ha deleka kora. Alors que Rav part dans une situation où on n'a pas mis de poutre sur ce sel et c'est pour cela que celui-ci s'éparpillera. Voir le Gilyon Hashas du Rabbi Akiva Eiger et le Rachash. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Marikin et Arechaim Shlosha Mina Shechev Shehem Arbaa Mina Rechev. Il faut éloigner le moulin du mur de son voisin, d'une distance de 3 tfachim de la pierre inférieure, ce qui fait une distance de 4 tfachim de la pierre supérieure qui est plus petite. La Gemara demande Maïtama, pourquoi faut-il éloigner le moulin du mur du voisin? La Gemara répond Mishum Tiraya, à cause des vibrations causées par ce moulin. La Gemara demande Vatania, pourtant il a été enseigné dans une braïta, Veshel Chamor, il faut éloigner le moulin qui est installé sur un échafaudage, comme l'explique Tosfot, du mur de son voisin, d'une distance de Shlosha Mina Istrubil, de 3 tfachim du socle qui soutient ce moulin, Shehen Arbaa Mina Kelet, ce qui fait une distance de 4 tfachim de l'entonnoir du moulin, qui est plus petit que son socle. Alors la question se pose, Hatam Maitirayaika, où est-ce qu'il y a des vibrations dans ce moulin qui est installé sur un échafaudage? Puisque d'abord celui-ci est plus petit, et en plus il n'est pas posé à même le sol, donc les vibrations de ce moulin ne font pas tomber le mur, ne lui causent pas de dégâts. La Gemara répond, et là, Mishum Kala, effectivement, lorsque la Braïta dit qu'il faut éloigner le moulin qui est installé sur un échafaudage du mur du voisin, ce n'est pas à cause des vibrations causées par ce moulin, parce qu'il n'y a pas de vibrations comme nous l'avons dit, mais plutôt à cause du bruit, donc à cause des ondes sonores provenant du moulin. Celles-ci peuvent aussi, en effet, faire tomber un mur. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'et hatanur shlosha mina kalia, shehen arbaa mina safa. » Il faut éloigner le four du mur de son voisin d'une distance de 3 tfachim de la partie inférieure de la base de ce four, ce qui fait une distance de 4 tfachim de la partie supérieure de cette base qui est plus petite. La Gemara dit là-dessus, Amar Abaye, Shma Mina, nous pouvons déduire de cette Mishnah, Kalia de Tanur Tefach, la partie inférieure de la base du four, qui est une couche épaisse de mortier pour isoler le four du sol, dépasse du four d'un Tefach de chaque côté. En Nafkamina, ce que nous apprenons de là, les Mekar ou Memkar, c'est pour les transactions. C'est-à-dire, nous apprenons de là que lorsqu'une personne commande la base d'un four, il faudra que celui-ci soit des rayons d'un tefar soit 10 cm de plus que la taille du four lui-même. Nouvelle Mishnah. Lo yamid adam tanur betor habayit. Un homme n'aura pas le droit d'installer un four dans une maison. Elaim ken yesh al gabav gova arba amot. À moins qu'il n'y ait au-dessus de ce four une hauteur de 4 coudées pour éviter de causer des dégâts au plafond qui est en bois, qui est en fait aussi le sol du voisin du dessus. Hayam amido ba'aliyah. S'il installait un four dans l'étage du dessus, tsarir sheyet artav ma'aziva shloshat fachim. Il faudra qu'il y ait une couche de mortier d'une épaisseur de 3 tfachim en dessous de ce four pour l'isoler du sol, pour ne pas causer des dégâts au sol qui est aussi le plafond du voisin du dessous. Ou bekira, et lorsqu'il s'agit d'un petit four, tefar, on peut se suffire d'une couche de mortier d'une épaisseur d'un tefar, soit 10 cm. Beimizik, et si quand même des dégâts ont été causés au sol ou au plafond du voisin, meshalem machizik, il devra payer les dégâts. Rabbi Shimon Omer, Lo amru kol ha'shurim ha'elu. Les chachamim n'ont institué ces mesures, donc ces précautions, et là, chez imizik patum el shalem, que pour que la loi soit, que si il a causé des dégâts, donc si des dégâts ont été causés par ce four, son propriétaire est dispensé de tout paiement. Puisque finalement, lorsqu'il a pris ces précautions, il ne reste qu'une possibilité lointaine que des dégâts soient causés, et pour cela, il ne sera pas tenu responsable. Lo yiftach adam chanut shel achtomin veshel tzabaim tachat otzaro shel chavero. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de son prochain, parce que la chaleur qui se dégage de la boulangerie ou de la teinturerie est nocive pour les denrées entreposées dans cet entrepôt. Velo refet bakar, il est interdit aussi d'ouvrir une étable sous l'entrepôt de son prochain, parce que les mauvaises odeurs provenant de cette étable est nocive pour l'entrepôt de son prochain. Behemet, en vérité, beyayin hitiru, les chachamim ont permis d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de vin de son prochain, parce que la chaleur n'est pas nocive pour le vin. Aval lo refet bakar, mais quand même, il sera interdit d'ouvrir une étable sous l'entrepôt de vin de son prochain, parce que la mauvaise odeur est nocive pour le vin. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit que pour permettre d'installer un four à l'étage, il faudra tout d'abord étaler une couche de mortier d'une épaisseur de 3 tfachim, donc de 30 cm, pour l'isoler du plancher. Et s'il s'agit d'un petit four, on pourra se suffire d'une couche de mortier d'une épaisseur d'un tefar, soit de 10 cm. Alors la Gemara demande, Vatania, pourtant il a été enseigné dans une braïta, Betanur, Arba'a, ou Bekira, Shlosha. Lorsqu'on veut installer un four à l'étage, il faut que l'épaisseur de la couche de mortier soit de 4 tfachim, soit 40 cm. Et s'il s'agit d'un petit four, il faudra que cette couche de mortier soit d'une épaisseur d'un minimum de 3 tfachim, soit de 30 cm, contrairement à ce que nous avons vu dans la Mishnah. La Gemara répond à Marabaye. Kitania ahi, beden artomin. Cette braïta parle de four de boulanger qui est chauffé constamment. C'est pour ça qu'il faudra prendre de plus grandes précautions et la couche de mortier devra être plus épaisse. Des tanourdinan, parce que notre four, ou plutôt la chaleur dégagée par celui-ci, kikira de l'artomin, ressemble au petit four du boulanger. C'est pour cela donc que la Mishnah enseigne qu'il faudra que la couche de mortier soit d'une épaisseur d'un minimum de 3 tfachim pour notre four, qui est la même que l'épaisseur nécessaire pour le petit four du boulanger. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Lo yiftach chanut » Il est interdit d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de son prochain. Alors la Gemara dit là-dessus « Tana » Il a été enseigné dans une braïta pour expliquer cette Mishnah. « Im haya refet kodemet leotzar » Si l'étable existait avant que le voisin du dessus a ouvert son entrepôt, moutar, c'est permis, c'est-à-dire il n'aura pas besoin d'enlever son étable. Et cela, comme nous l'avons expliqué plus haut, daf yutret amud alef, parce qu'il est impossible d'interdire à une personne l'utilisation de son appartement comme il l'entend. Baye Abaye. Abaye a posé la question suivante. Kibet veribet leotzar mahu. Si le voisin du dessus a balayé et a nettoyé l'étage du dessus pour en faire un entrepôt, mais il n'y a pas encore entreposé des aliments. Et puis le voisin du dessous veut ouvrir une étable. Alors quelle est la halakha? Est-ce que nous considérons que cette préparation sera considérée comme si le voisin du dessus a ouvert son entrepôt, donc celui du dessous n'aura pas le droit d'ouvrir son étable, ou bien tant que le voisin du dessus n'est pas dérangé par l'étable de celui du dessous, parce que le voisin du dessus n'a pas encore entreposé des aliments dans son entrepôt, il est impossible d'empêcher à celui du dessous d'ouvrir son étable. Autre question, riba bechalonot mahu. Si le voisin du dessus a commencé à investir pour faire cet entrepôt, par exemple, il a ouvert beaucoup de fenêtres à l'étage du dessus. Alors, quelle est la halakha? Est-ce que il pourra déjà empêcher le voisin du dessus d'ouvrir son étable? Ou bien, puisque maintenant, il n'est pas encore dérangé par la présence de l'étable, puisqu'il n'a pas encore commencé à entreposer des denrées dans celui-ci, il ne pourra pas l'empêcher d'ouvrir son étable. Bien qu'en faisant beaucoup de fenêtres à l'étage, il montrait qu'il voulait que cet endroit soit bien aéré pour en faire un entrepôt. Selon le bar, nous sautons les quatre mots suivants, voir le pilpula harifta. Bana aliyah al gabe beto mahu. Si le voisin du dessus, à qui appartenait le toit, a carrément construit l'étage pour en faire un entrepôt, donc il a beaucoup plus investi pour le faire, quelle est la halakha? Est-ce qu'il pourra empêcher le voisin du dessous de faire une étable ou une boulangerie ou non? La Gemara conclut sur toutes ces questions. Teku, ce sont des questions qui restent sans réponse. Elio Hanavi répondra. Ba'e Rav Huna Bered Rav Yeshua. Tamre Verimone Mai. Si le voisin du dessus a entreposé dans son entrepôt des dattes ou des grenades qui ne sont pas gênées par la chaleur dégagée par la boulangerie ou la teinturerie et ni par les odeurs dégagées par l'étable. Quelle est la halakha? Est-ce qu'il peut quand même empêcher le voisin du dessus de les ouvrir parce qu'il voudra plus tard y entreposer des céréales ou de l'huile qui seront abîmées par la chaleur ou les odeurs? Ou bien puisque maintenant il n'est pas dérangé par cette chaleur ou ces mauvaises odeurs, il ne pourra pas empêcher son voisin d'utiliser l'appartement du dessous comme il l'entend, donc pour ouvrir une boulangerie ou une étable. La Gemara conclut là-dessus. Teku, c'est une question qui reste sans réponse. Eliyahu HaNavi répondra. Nous préciserons, comme le précise le Rishonim, que ce cas ne ressemble pas au dernier cas de la Mishnah où il est permis d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de vin de son voisin, parce qu'en général, l'entrepôt de vin restera comme tel, alors que l'entrepôt de dattes ou de grenades sera transformé en entrepôt de céréales. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Behemet beyayin itiru ». En vérité, les Chachamim ont permis d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de vin de son voisin. La Gemara dit là-dessus « Tana, il a été enseigné dans une breita pour expliquer la Mishnah. Beyayin itiru, les Chachamim ont permis d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de vin de son voisin, mipnei shemashbicho, parce que la chaleur, au contraire, améliore le vin. Velo refet bakar, mais les chachamim n'ont pas permis d'ouvrir une étable sous l'entrepôt de vin de son voisin, mipnei shemasricho, parce que les mauvaises odeurs abîmeront le vin. Amar Rav Yosef dit là-dessus, haididan, notre vin, donc qui est fabriqué en Babel, a filukutra de shraga namikashale. Même la fumée provenant d'une bougie lui est nocive. Et c'est pour cela qu'en Babel, il sera interdit d'ouvrir une boulangerie ou une teinturerie sous l'entrepôt de vin de son voisin. Amar Rav Shechet, Veas Pasta et un entrepôt de foin qui est Refet Bakar Damia ressemble à une étable. C'est-à-dire, l'entrepôt de foin dégage des mauvaises odeurs. Il sera donc interdit de le faire sous l'entrepôt de céréales ou de vin de son voisin. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Davkaf. Nous commençons le shiur de Baba Batra, Daf Kaf Alef. Nous commençons Daf Kaf Amud Bet à la Mishnah en bas de la page. Alors la Mishnah dit, Chanut Shebechatzer, si l'un des voisins veut ouvrir un magasin dans la cour commune, Yachol Limchot Beado, un autre voisin peut protester contre, donc l'empêcher de le faire, Velo Marlo, et lui dire, Eni Yachol Lishon Mikol Hanichnasin ou Mikol Hayotzin, je ne peux pas dormir à cause du bruit que font ceux qui rentrent et celui qui font ceux qui sortent. En d'autres termes, le va-et-vient me gêne. Aval Ose Kelim, mais l'un des voisins aura le droit de faire des ustensiles ou de fabriquer des objets, Yotze ou Mocher Betor Hashuk, et sortir les vendre dans le marché. Et un autre voisin ne peut pas protester contre, donc l'empêcher de le faire, Velo Marlo, et lui dire, Eni Achol Lishon, je ne peux pas dormir l'omikol apatish, ni à cause du bruit du marteau lorsque tu fabriques des ustensiles, Velo Mikol Rechaim, ni à cause du bruit du moulin lorsque tu moues du blé, velomikol atinokot, ni à cause du bruit que font les enfants, apparemment, lorsqu'ils viennent acheter dans ton magasin. Et cela, parce que nous partons du principe que nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises dans ce chapitre, qu'il est impossible d'empêcher une personne d'utiliser son domaine comme il l'entend. Il a le droit donc de travailler pour gagner sa vie. Le voisin peut cependant l'empêcher de faire rentrer des étrangers dans la cour. Par conséquent, il n'aura le droit de faire aucune activité qui emmène des étrangers dans la cour, mais lorsqu'il travaille chez lui, il aura le droit de le faire, le voisin ne pourra pas protester. Alors la Gemara demande, Maïshana Recha ou Maïshana Sefa, quelle différence y a-t-il entre le premier cas de la Mishnah, où le voisin peut empêcher l'autre d'ouvrir un magasin parce qu'il sera dérangé par le va-et-vient, et le dernier cas de la Mishnah, où le voisin ne peut pas empêcher l'autre de faire une activité qui amène des enfants, donc apparemment ouvrir un magasin, il ne pourra pas donc protester contre le va-et-vient. Ragma répond à Amar Abaye, Sefa Atan Lechatzer Acheret. Dans le dernier cas de la Mishnah, il s'agit d'une autre cour. C'est-à-dire, une personne ne pourra pas empêcher le voisin de la cour adjacente d'ouvrir un magasin parce qu'il sera dérangé par le va-et-vient, mais il pourra l'empêcher d'ouvrir un magasin dans sa propre cour parce qu'il sera dérangé par le va-et-vient. Amar le Rava, Rava lui a posé la question suivante, Yahri, si c'est ainsi, Litne Chatzer Acheret Mutar. La Mishnah aurait dû dire que dans une autre cour, il est permis d'ouvrir un magasin même s'il y a des va-et-vient. Pourquoi est-ce que la Mishnah s'exprime de cette manière? La Gemara répond, Ela Amar Rava. C'est pour cela que Rava dit.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.